Environnement, nature, cadre de vie, c'est Prise de Terre.
Dominique Ernst, on n'est pas loin des carrières du Salève ici, des carrières que notamment Stendhal, l'auteur du Rouge et du Noir, n'avait pas du tout appréciées.
Oui, il était quelque part en avance sur son temps, puisqu'arrivant à Genève et découvrant ses carrières, il a vraiment dit que c'était une horreur et qu'il fallait les fermer tout de suite. Et visiblement, il n'a pas été écouté, parce que, bien encore une fois, il y a des besoins économiques qui sont nécessaires, et si ces carrières fermaient, il faudrait faire venir les matériaux de beaucoup plus loin, avec une noria de camions et avec beaucoup de problèmes.
Stendhal pensait peut-être pas aux camions à l'époque. Mais...
Non, sans doute pas.
Bonjour Adrien Zerbini.
Bonjour Lucie Solari.
Bien, vous voyez Adrien, votre reportage commence à peine, que j'ai déjà appris quelque chose. Parce que, bon, en tant que Genevoise, évidemment, j'ai toujours connu le Salève.
Forcément.
Le Salève, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, il n'y en a pas beaucoup. C'est cette montagne qui est située en France, mais auxquelles les Genevois sont très attachés. Et forcément, évidemment, j'ai toujours vu cette monstrueuse balafre sur le flanc de la montagne, qui est due à l'exploitation d'une carrière, on va en parler. Mais alors, j'étais quand même loin de m'imaginer qu'au début du 19e siècle déjà, il y avait des gens pour s'en offusquer, et en plus, pas n'importe.
Oui, c'était en 1938 précisément que Stendhal s'est offusqué de cette carrière. L'incision de la carrière, pourtant à l'époque, elle n'avait pas grand-chose à voir avec la balafre dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on arrive au Salève par le village de Verrier, eh bien, on se trouve devant une carrière de plus d'un kilomètre de large. 57 hectares, c'est l'équivalent de 80 terrains de football, d'éboulis, de routes, de camions. Pas vraiment la montagne de Heidi, si vous voulez.
Non, évidemment, puisque Heidi...
Elle n'est pas genevoise.
Elle n'est pas genevoise. Et le Salève, c'est un petit peu quand même le Mont Genevois, tant les Genevois effectivement aiment cette montagne. Et beaucoup d'entre eux d'ailleurs se plaignent depuis des années de cette morsure très très moche, faut le dire, mais qui n'est que la partie visible de l'impact environnemental de l'exploitation de la carrière.
Alors c'est vrai que c'est un écosystème qui est entièrement modifié par l'exploitation des carrières. Pas toujours pour le pire, faut le dire, parce qu'on peut rappeler que les carrières créent souvent aussi ce qu'on appelle les milieux pionniers, que les batraciens apprécient beaucoup. Par ailleurs, c'est vrai que la végétation a été sacrifiée par les carrières, et puis c'est une activité extractive, donc c'est rarement léger, il faut des camions, des concasseurs, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette activité devrait cesser en 2033, après une très longue histoire industrielle. Dominique Ernst est un passionné de l'histoire du Salève. Il est l'auteur de 3 ouvrages sur le massif, dont le dernier s'appelle « Le Salève, des histoires et des hommes » aux éditions Statkin. Et il est sorti tout récemment. C'est lui que je vous propose tout d'abord de retrouver sur l'un des nombreux sentiers du Salève.
Donc là, Dominique Ernst, on se trouve sur un sentier qui est assez large, qui est assez confortable. Il y a un muret, effectivement, sur notre droite. C'est que c'était l'ancienne voie du chemin de fer à crémaillère, c'est ça?
Exactement. Le chemin de fer électrique à crémaillère qui montait de Verrier et des Trembières jusqu'aux 13 arbres au sommet du Salève.
Pour ce qui est du Genevois, on va dire, le Salève, c'est quelque chose de très important.
Oui, on parle de la montagne des Genevois et c'est absolument pas un hasard. C'est vraiment leur poumon vert, leur espace de respiration. En plus, c'est l'endroit d'où on peut admirer Genève. On a un panorama absolument fantastique.
Le balcon.
Le balcon de Genève, le balcon du Léman. Et c'est vrai que tout Genevois qui se respecte montre régulièrement le Salève.
T'es belle comme un jour de grève, belle comme le Salève depuis Collonges. Belle comme un panier de prunes, belle comme un coup de lune, comme les jours qui s'allongent.
Et c'est les Alpes de proximité.
Voilà, exactement. On peut dire ça. C'est les Alpes de proximité du Genevois. Et c'est vrai que nombre d'alpinistes genevois qui ont connu après des grandes carrières ont fait leurs premières armes au Salève, à commencer par Horace Bénédicte de Saussure, qui, avant d'initier la conquête du Mont Blanc, lui a fait toutes ses gammes au Salève.
Dominique, notre sujet aujourd'hui, ce sont les carrières du Salève. Elles ont aussi une importance, on va dire, tout à fait historique, finalement, pour Genève. Je crois même plus particulièrement pour le quartier de Carouge, qui a été construit plus tard, justement, en plein boom de l'exploitation des carrières. Cela dit, ces carrières, elles ont vraiment une histoire qui est très proche de celle de Genève.
Absolument. Leur proximité fait qu'en fait... Pas que pour Genève, mais notamment pour Genève, elles ont servi à bâtir à peu près tout ce qui existe, quoi. Les routes, les maisons, les ouvrages, les ponts.
Parlons de l'impact sur le paysager des carrières. On a parlé tout à l'heure de Stendhal qui s'était offusqué. Il y a d'autres gens qui se sont offusqués ou ça a pris des proportions à certains moments, cette carrière ou ces carrières du Salève ?
Bien sûr, on a, à la fin du 19e siècle, la commission des sites donc de la Haute-Savoie, qui était un organisme d'État, qui était vraiment fâché par l'aspect catastrophique de ces carrières sur le paysage, qui a vraiment demandé au préfet de faire immédiatement cesser l'exploitation. Et bien sûr, ça ne s'est jamais fait, parce qu'il y avait des intérêts économiques importants qui ont fait que les protestations ne sont jamais allées très loin. Quand on regarde des photos qui datent des années 1960, ce qui commence à faire, mais qui n'est pas non plus la préhistoire, ben on voit qu'elles étaient beaucoup moins importantes. Elles étaient plus cachées dans le paysage. Et c'est vraiment, en gros, depuis les années 1980, que les gens ont pris conscience que c'était quelque part, cette balafre était vraiment une catastrophe à plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, cette prise de conscience a fait que donc, l'exploitation se terminera, je crois, en 2033. Et après, donc, on devrait retrouver un paysage conforme à ce que le Salève pourrait être.
Voilà, Dominique Ernst, historien, donc spécialiste du Salève et qui signe aux éditions Slatkin le Salève, des histoires et des hommes. Vous faisiez allusion, Adrien, au cours de cette conversation, à une histoire qui commence au Moyen-Âge.
Oui, c'est ça. On a trouvé des traces de fours à chaux qui datent du Moyen-Âge proche du Salève. Donc on sait que déjà à l'époque, on fabriquait cet ancêtre du ciment qu'est la chaux avec le calcaire du Salève. Mais évidemment, c'est pas vraiment des carrières comme celles dont on parle aujourd'hui. Le premier véritable boom, ça date du XVIIIe siècle, avec la ville de Carouge, qui a par exemple été construite pratiquement entièrement avec du calcaire du Salève. Et tout comme certains bâtiments genevois, d'ailleurs, le musée Rath, par exemple, vous savez, c'est celui qui ressemble à un temple grec.
Exactement, qui donne tout près des bastions.
Exactement. Et ben, ces pierres viennent du Salève, mais d'une autre carrière que celle qui nous occupe ce matin.
Alors, ce qui nous occupe ce matin, justement, c'est aussi l'impact de cette exploitation, de cette carrière.
Et pour en parler, nous sommes avec Pierre Cuzin, c'est le président du syndicat mixte du Salève, près du village d'Étrembières, dans la forêt, vers un étrange bâtiment moderne qui ressemble un peu à un barrage sans rivière.
On est à la source des Aubelles, au réservoir plus exactement, qui se trouve au-dessus de la source des Aubelles sur la commune d'Étrembières.
Et donc l'eau qu'on entend, c'est la captation de l'eau qui descend du Salève.
Effectivement, c'est le captage donc d'une grande quantité d'eau de tout le Grand Salève entre La Croisette et Étrembières, et ça correspond à peu près à un tiers de la consommation de l'agglomération d'Annemasse, qui fait environ 90 000 habitants.
Pierre Cuzin, alors vous êtes président du syndicat mixte du Salève. En deux mots, c'est quoi le syndicat mixte du Salève ?
C'est une association de 27 communes qui a été créée en 1994 pour protéger cette montagne, on va dire des atteintes qui pouvaient lui être faites, en particulier en termes d'urbanisation.
Donc au départ, l'idée, c'était pas forcément tout de suite de protéger la nature, mais déjà de dire on ne construit plus tout et n'importe quoi sur cette montagne.
Effectivement, il y avait eu plusieurs grands projets sur le sommet du Salève, aux Treize Arbres, à la Croisette, au Château des Avenières, des projets immobiliers du fait de la proximité du bassin genevois. Et ces projets auraient évidemment eu un impact très grave sur la montagne. Donc les élus des communes ont décidé de protéger de toute construction le massif, la partie sommitale du massif.
Et cette protection aurait un lien avec la carrière dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que cette restriction a également restreint la carrière dans ses activités ?
Tout à fait. Pour simplifier, la partie sommitale, les alpages sont interdits de construction et de boisement. Les versants sur lesquels se trouvent les carrières, eh bien, toute nouvelle carrière est interdite et la carrière actuelle ne peut pas s'étendre. Au contraire, elle va même diminuer d'impact.
Et en ce qui concerne alors l'environnement, puisque si je comprends bien, le syndicat mixte du Salève a également donc vocation de conserver et valoriser l'environnement du Salève, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est fondamental ici ?
Alors ce qui est important, c'est de garder cette biodiversité, qui est assez unique, puisque sur une petite montagne d'environ 1000 mètres de dénivellation, on a des espèces végétales et des espèces animales très nombreuses. Il y a par exemple une douzaine de sortes d'espèces de chauves-souris. Donc conserver cette biodiversité. Et puis c'est aussi dans le cadre des projets corridors écologiques du Grand Genève, Donc sur ce secteur, c'est par exemple donc de faire en sorte que la faune puisse continuer à se déplacer sans être gênée par l'activité humaine, ce qui n'est pas facile.
Non, alors là, effectivement, on se parle, on a sous nos yeux, derrière quelques arbres, Annemasse, on a l'autoroute qui passe pas loin, il y a un golfe, il y a les carrières. Pour les animaux, on imagine bien qu'il y a une pression énorme.
Ben, ces animaux, ils n'ont rien demandé à personne, mais nous, on est arrivés quand même après eux et on s'installe. On fait des actes de transport, effectivement, ici il y a une autoroute qu'on entend bien, donc il y a la voie ferrée, il y a les routes, il y a les carrières, c'est vrai. Donc tout ça, effectivement, entrave beaucoup les déplacements, et si je prends l'exemple donc, des déplacements des animaux pour se reproduire, c'est quand même important, eh bien on a fait une exposition à la Maison du Salève sur les corridors de l'amour qui montrait que toutes ces activités, plus qu'agriculture intensive, plus tout ce qui est construction, ben ça allait évidemment fortement donc gêner les activités des animaux et leur vie de tous les jours.
Pour revenir sur cette histoire de corridor écologique, justement, il y a un corridor écologique qui passe le long du Salève pour la faune. Et de ce point de vue-là, la carrière est également un obstacle.
C'est un obstacle puisque la carrière, pour des mesures de sécurité, est entourée de grillages, hein, comme toutes les infrastructures, on va dire, où il y a un certain danger. Donc les animaux sont obligés de faire le tour, effectivement. Alors, faire le tour par la partie haute, c'est assez facile. Faire le tour par la partie basse, c'est plus difficile.
Il y a l'autoroute.
Entre autres, oui.
Et il y a un projet, que je vais d'ailleurs aller voir, il y a un projet de revégétalisation d'une partie de la carrière qui fait partie de ce couloir écologique.
Il y a un projet déjà ancien, il date d'une dizaine d'années, donc qui doit en fait complètement donc mettre fin à l'activité carrière d'ici 2034-2035. Mais il y a aussi dans ce projet de réhabilitation, c'est en fait une revégétalisation des marges. Ça se fait par la partie sud, au niveau de Bosset. Et donc c'est justement avec l'EPIA de Genève que nous avons donc engagé dans le cadre de ce projet Corridor une étude scientifique pour trouver les meilleures espèces indigènes pour permettre de reprendre racines, c'est le cas de dire, sur ces terrains qui sont très pentus et très secs.
On va aller voir ça, ça m'a l'air tout à fait intéressant.
Prise de terre.
Et là, on arrive sur cette carrière qui est très spectaculaire, qui est immense, revêtue un gilet fluorescent et un casque. Et devant moi, maintenant, j'ai Bernard Chava. Bernard Chava, dites-nous peut-être en deux mots qui vous êtes.
Je suis co-gérant de la SRL Chavaz Père et Fils et qui m'occupe, entre autres, de toute l'exploitation et la gestion du site des carrières au Salève avec la famille des Combes, puisqu'il y a deux entreprises historiques qui exploitent le site. La première, historiquement, donc Chavaz Père et Fils, qui a débuté en 1830, et ensuite la société des Combes, qui a démarré plus tard, puisqu'elle, c'est la quatrième génération, et nous, la septième.
Donc là, on est au-dessus de la carrière, c'est assez... enfin... d'ailleurs, d'une partie de la carrière, mais c'est assez impressionnant. Et alors, en dessous de nous, on voit des camions qui passent. Il y a aussi des engins d'extraction, justement. Qu'est-ce qu'on exploite ici, en fait ?
Alors ici, on exploite de la roche calcaire. Alors, une partie d'éboulis. Donc, en fin de compte, les éboulis, c'est la roche meuble qui, à force, je dirais, de l'érosion, etc., sont venus se mettre en stock et qui sont exploités à l'aide de chargeuses et de pelles. Et sinon, il y a une partie. Donc là, l'éboulis, c'était, je dirais, surtout historiquement, et maintenant on est beaucoup en exploitation massif, c'est-à-dire qu'on est dans la roche massive où on exploite avec des tirs de mine.
J'avais lu 70 hectares, c'est un peu moins que ça, c'est ça ?
Tout à fait. Alors le site aujourd'hui, il est ouvert au maximum, aussi bien en hauteur que de part et d'autre, et on est sur une surface globale de 57 hectares. C'est le périmètre d'ailleurs autorisé dans le cadre de l'autorisation actuelle qui date de mai 2003.
Il y a effectivement un grand dénivelé entre le haut et le bas de l'exploitation de la carrière. C'est quelle dénivellation ?
Alors, au point le plus bas et au point le plus haut, il y a environ 250 mètres de dénivelé au maximum sur l'ensemble du site.
Et pourquoi elle est si gigantesque ?
Alors écoutez, bah, c'est une très bonne question. En fin de compte, ce site, il date de à peu près 1830, donc il a 190 ans d'existence. Au fil des temps, il y a eu plusieurs exploitants. Et jusqu'à un moment, il y avait 7 exploitants sur le pied du Salève.
Donc parce que si c'est si large, ce que vous me dites, c'est qu'il y avait 7 exploitants côte à côte. S'il n'y avait eu qu'un seul exploitant ou deux exploitants, ça aurait été une surface plus étroite qui aurait été exploitée puis remise en état.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, par exemple, on voudrait ouvrir une carrière de ce type sur des éboulis et de la roche massive. Il faudrait imaginer, par exemple, ouvrir 5 hectares à l'extraction pendant, admettons, les 5 premières années, puis décaler ces 5 hectares pour les 5 années suivantes et réhabiliter en même temps les 5 premières années. Ce qui ferait qu'en fin de compte, on aurait un périmètre de 10 hectares, je dirais glissant. Or ici, ce n'est pas le cas, puisque comme je le disais, 200 ans d'histoire fait que bah, forcément tous les carriers ont exploité côte à côte, et donc ce qui a ouvert le site sur cette surface globale.
Alors évidemment, on est là, Bernard Chabat, pour parler de l'impact écologique de cette carrière. Je vois d'ailleurs sous nos pieds beaucoup de terre, étonnamment. Cette terre, elle a été ramenée ici déjà.
Alors tout à fait. En 2003, on a proposé, lors du renouvellement de l'exploitation de la carrière, donc 2003 pour jusqu'en 2033 actuellement.
Fin de l'exploitation.
Fin de l'exploitation, exactement, en 2033. On a proposé une remise en état importante du site. Et donc l'idée est d'extraire la roche et de la remplacer par des matériaux inertes. Alors les matériaux inertes, c'est ni plus ni moins que de la terre, issue essentiellement des marchés locaux, aussi bien France que Suisse, et c'est-à-dire on réceptionne, comme par exemple si demain il y a un immeuble, eh ben il y a des fondations qui doivent être faites, donc il y a de la terre qui est extraite, donc c'est ni plus ni moins du sol, qui est ensuite emmené aux carrières du Salève pour permettre de remodeler, reconstituer tout le pied du Salève pour in fine que l'impact visuel de la carrière soit réduite au maximum.
Tous ces camions qu'on voit quitter la carrière et partir sur les routes, c'est aussi des choses auxquelles vous devez penser ?
Alors tout à fait, il faut savoir que le site est équipé, toutes les pistes techniques sont équipées entre autres par exemple de brumisateurs, qui fait que l'été ils s'allument automatiquement pour humidifier les pistes et rabattre les poussières. À côté de ça, les camions qui sont chargés de particules fines, c'est-à-dire de sable, eh ben, ils sont bâchés au départ du site. On a également investi dernièrement dans un laveur de roues, qui fait que tous les camions qui sortent du site passent dans le laveur de roues, qui est un système à haute pression style Karcher.
Par contre, quand on creuse dans une montagne, à un moment, il faut s'arrêter, sinon ça finit par faire un trou. C'est ça, l'arrêt en 2033 ?
Oui, alors souvent, on pose la question, on dit quand est-ce que vous allez faire un tunnel ? Alors aujourd'hui, tout ça, je dirais, c'est un peu des idées toutes reçues. En fin de compte, on exploite les boulis, donc qui est devant la roche massive. Et à partir de là, donc, il y a toute une partie de paliers qui sont descendus devant la roche massive, mais pour lequel on respecte un pendage. Donc on ne rentre jamais en sous-cavage, comme on appelle, mais bien au contraire, on est devant la falaise et avec un fruit de stabilité.
J'essaie de réfléchir à la pertinence de l'aspect local d'une carrière par rapport à des carrières qui seraient plus lointaines pour les gens qui ont besoin simplement de matériaux.
Alors quand on a demandé et sollicité le renouvellement des exploitations en 2003, on a demandé une étude pour voir si demain les carrières au Salève, qui produisent chaque année 500 000 tonnes, si elles n'étaient pas renouvelées, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur l'environnement ? Et en fin de compte, le simple constat était que pour avoir 500 000 tonnes dans le marché local,
de matériaux
exactement pour la construction, travaux publics, les bétons, etc., les carrières les plus proches de substitution sur des volumes aussi importants étaient soit dans le Jura, soit les plaines de l'Ain, etc. Et à ce moment-là, bah, par le biais du transport, on arrivait sur des résultats, catastrophiques dans le cadre des rejets de CO2 dans l'atmosphère. Et par rapport à ça, ça représentait par exemple 70 ans en valeur énergétique, 70 ans de consommation d'une ville comme Étrembière en mazout qui représente 2200 habitants.
Donc évidemment émission de CO2 parce que camions qui se baladent, mais simplement des camions qui se baladent moins loin.
Exactement. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les 500 000 tonnes qui sont produites sur la carrière, et on a fait l'exercice, sont livrées en moyenne dans un périmètre de 14 km autour de la carrière. À peu près 70% sur la France et 30% sur la Suisse.
Finalement, Adrien, depuis des lustres, le BTP du Genevois consomme local, ce n'est pas plus mal.
Oui, alors disons que je n'ai pas fait une étude sur les différentes carrières se trouvant autour de Genève, mais cette carrière est la seule dans un très large périmètre. Et donc, on peut imaginer qu'elle n'arrive pas totalement à satisfaire la demande locale.
Et en 2033, eh bien tout ça, ça sera terminé.
Alors c'est un des scénarios. Vous savez que dans la construction, on utilise de plus en plus des gravats de recyclage. C'est ce qu'on appelle par exemple l'éco-béton. Et si cette tendance se renforce, ce qu'on peut souhaiter, ben peut-être que la carrière ne produira plus ces 500 000 tonnes de matériaux par an. Et alors il en resterait un peu à exploiter au-delà de 2033. Et dans ce cas-là, une nouvelle autorisation serait demandée.
Ah oui, mais alors à ce moment-là, on ne pourra pas redonner aux salèves son visage originel.
Ah oui, c'est bien d'utiliser le
conditionnel.
Les carrières. Voilà, oui, c'est compliqué. Bon, alors dans ce cas-là, en fait, ce serait une toute petite partie de la carrière qui resterait exploitée. Et de toute façon, le projet de revégétalisation, lui, bah, il est déjà amorcé.
Et sous quelle forme est-ce qu'il est amorcé?
Alors actuellement, sous la forme de différents essais qui sont effectués par l'EPIA de Genève. L'idée, si vous voulez, c'est d'inviter la nature à venir elle-même recoloniser la carrière. L'homme qui dirige cet essai s'appelle Patrice Prunier. Il est responsable de la filière sciences de la vie à l'EPIA.
L'objectif, c'était de reconstituer dans un premier temps un tapis herbacé à partir des espèces qui étaient présentes localement et avec différentes techniques.
Là, on est un peu sur une sorte de tapis herbacé, c'est ça? Là, on marche.
Un tapis herbacé, c'est une prairie, c'est une pelouse, c'est un pâturage. Nous, la partie qui nous a concerné, c'est celle qui est située en-dessus de nous, là, qui a été, je dirais, récemment dénudée. Et donc, l'objectif, c'est d'amorcer une colonisation végétale sur un secteur, voilà, qui est totalement dépourvu de végétation. Et pour ça, on a différentes techniques. Alors, soit on sème les espèces avec des mélanges grainiers hein, qui tiennent compte de la composition qu'on souhaite réaliser et qui est en place. Soit on peut mettre la plante directement, c'est-à-dire qu'on la prélève sur site dans des secteurs qui vont être exploités. Elle est fragmentée, elle est repiquée. Ça, c'est un principe bien connu des jardiniers. Soit on peut même réaliser ici, c'est le cas, du foin de rocher, c'est-à-dire que les espèces, notamment une graminée très structurante qu'on voit sur tout le versant, a été collectée, mise à sécher et on l'a répandue sous un géotextile pour la maintenir de manière à reconstituer finalement la litière et les conditions propices à la germination des espèces végétales.
Donc là au-dessus de nous, je vois une sorte de bâche noire, ça fait partie de notre
essai. C'est une bâche, un treillis coco,
c'est
un substrat, je dirais, naturel qui va se dégrader et sous lequel a été positionné ce foin de rocher de manière à maintenir sa stabilité parce qu'évidemment dans cette situation de forte pente avec des vents importants, avec le ravinement, il ne serait pas maintenu. Et ce foin va constituer un ombrage pour des jeunes plantules qui vont pouvoir germer, trouver des conditions qui sont un peu plus faciles que celles qui les exposent en pleine lumière et en pleine sécheresse. On a vécu ces deux dernières années des sécheresses assez intenses qui n'étaient pas très favorables à la croissance des végétaux donc, durant la période estivale. On a aussi comme autre principe d'utiliser que des espèces qui sont adaptées à ces sols pierreux, aux perturbations. Elles ont pour but d'amorcer la colonisation. On aurait pu viser directement, je dirais, une plantation de ligneux, mais c'était prendre de gros risques par rapport aux sécheresses estivales qu'on connaît actuellement.
Alors effectivement, la forêt, elle est à peine à, je sais pas, 200 mètres de nous. Hein. Elle est tout près, la forêt est à la limite de la carrière. Et donc, il faut amorcer, comme vous dites, avec ces essais que vous êtes en train de faire, pour qu'ensuite, dans, je sais pas, quelques dizaines d'années, quelques...
Voilà, les arbres viennent et colonisent à leur tour le secteur. Simplement, les arbres sont encore plus exigeants en eau, encore plus exigeants en nutriments. Et donc vouloir directement les réimplanter, c'est encore prendre de plus grands risques quant à cette faisabilité.
Et d'ici à ce que la forêt revienne, on peut faire des prédictions, des plans sur la comète?
Là, on ne peut pas prophétiser. Elle va se revégétaliser plus vite dans sa partie inférieure que dans sa partie supérieure. Maintenant, dans la mesure où on est sur des procédés relativement lents, dans la mesure où il y a des aléas climatiques, on peut difficilement se prononcer sur des dates précises avec des stades précis à telle époque.
Mais le résultat final, vous êtes confiant?
Pour nos petits-enfants, assez. C'est-à-dire que les végétaux vont coloniser, ils vont inéluctablement, compte tenu des conditions environnementales, les arbres vont s'implanter. Maintenant, c'est peut-être pas demain, c'est après-demain, voilà, hein, mais ils reviendront.
Voilà, Patrice Prunier, le bien nommé, hein, Adrien Zerbini, puisqu'il est, voilà, il coordonne ce projet de revégétalisation. Ah, je l'ai dit.
Difficile.
Du Salève. Et il est responsable de la filière sciences de la vie à l'EPIA. Alors, donc, dans 100 ans, le Salève, il va ressembler à quoi si ce processus perdure, continue?
Alors dans 100 ans, on peut être positif, on peut dire qu'il aura un visage sans aucune balafre, donc un visage que malheureusement Stendhal ne pourra pas admirer, parce que si les arbres reviennent, bah, Stendhal, lui, il ne pourra pas revenir.
Voilà. Et nous, on ne le verra pas non plus, probablement.
Pas nous. Mais on sait que c'est, ça va dans le bon sens.
Oui, et en même temps, je me dis que voilà, le Salève sans sa balafre va perdre peut-être un peu de son identité.
C'est vrai.